Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. On va parler aujourd'hui de parentalité et c'est avec vous Stijn van Petegem. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur qualifié FNRS dans la faculté de psychologie, de sciences de l'éducation et de logopédie à l'ULB, c'est bien ça?
Oui, correct.
Et vous travaillez sur en fait la famille, la parentalité, c'est quoi votre domaine de recherche?
De base, je suis psychologue du développement, ce qui veut dire que je m'intéressais surtout au développement des enfants, des jeunes, des adolescents, la transition vers l'âge adulte. Et je me suis notamment intéressé par le passé, par la manière comment les parents peuvent soutenir le bon développement de l'enfant. Donc, je me posais surtout la question à quel type de pratiques ont quel sort d'effet sur les enfants, les jeunes. Puis de plus en plus, on s'est aussi intéressé à la question comment s'est vécu la parentalité. Donc largement, c'est plus ou moins ça, ce qu'on fait en tant que parent et comment on vit cette parentalité.
Alors si on doit définir la parentalité, c'est comment être parent? C'est tout simplement ça?
C'est une bonne question. En soi, c'est être parent, je dirais.
C'est marrant, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un mot qu'on utilise quasi tous les jours et que, en fait, ça coule de source. C'est comment être parent, c'est comment faire famille, c'est comment élever un enfant finalement.
Ouais, mais la difficulté, c'est aussi parce que certains termes qu'on utilise en anglais n'existent pas forcément littéralement en français, donc ça me faisait réfléchir un petit peu. Mais je dirais de base, la parentalité, c'est être parent et tout ce qui vient avec, y compris aussi l'éducation parentale, ce qu'on appelle en anglais le parenting. Donc ce qu'on fait et comment on soutient ou non le développement de l'enfant.
Ok. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, et c'est une bête question, hein, je vous préviens, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être parent qu'au siècle passé, par exemple?
C'est sûrement pas une bête question.
Mais parce que je me dis qu'à chaque époque, on peut se dire « Ah ben, avant c'était mieux, enfin,
ouais.
classique, quoi. »
Ouais, ben, je pense qu'à chaque époque, on dit effectivement qu'avant c'était mieux et aujourd'hui c'est plus compliqué. Mais en tout cas, la parentalité aujourd'hui, c'est différent qu'autrefois. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a des changements fondamentaux dans la manière d'être parent, c'est-à-dire que autrefois et aujourd'hui, on veut surtout le meilleur pour son enfant. Donc ça, c'est quand même un fil rouge. Mais le monde dans lequel on vit a quand même évolué pas mal au fil des années, au fil des décennies. Donc par conséquent, c'est logique aussi que la manière comment on va éduquer son enfant a aussi évolué. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui rendent la vie parfois plus compliquée pour les parents.
On va citer Internet, mais ça, on pourra y revenir plus tard. Alors aujourd'hui, c'est quoi justement est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques de la parentalité aujourd'hui?
Je pense qu'une différence importante, c'est la... Une première différence, c'est les attentes qui existent vis-à-vis des parents. Évidemment, avant, il y avait déjà certaines attentes par rapport à comment éduquer son enfant, mais aujourd'hui, on dit qu'on vit dans ce qu'on appelle une époque de parentalité intensive, c'est-à-dire que les parents d'aujourd'hui sont censés être très investis, très impliqués dans la vie de leurs enfants, investis de manière financière, émotionnellement, en termes de temps, et qu'un bon parent et une bonne mère, surtout, parce qu'il y a une dimension fortement genrée, un bon parent devrait toujours mettre les besoins de l'enfant au premier plan, même si ça vient au détriment de ses propres besoins. Donc il y a des normes, des attentes, des injonctions qui ont quand même évolué et qui mettent fortement en avance l'importance de l'implication parentale. Donc ça, c'est une première question ou un premier élément d'évolution. Je pense un deuxième aspect dont on parle aussi pas mal, c'est l'individualisation de la société, hein, le capital social, hein, l'idée que il y a moins de villages, entre guillemets, aujourd'hui. Hein, on connaît potentiellement l'expression en anglais It takes a village to raise a child.
Il faut tout un village pour élever un enfant.
Ouais, en effet. Mais on dit parfois, aujourd'hui, il y a moins de villages, donc moins de réseaux autour des enfants et la responsabilité tombe beaucoup plus sur les épaules des parents directement.
Et donc tout ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas au siècle passé, parce que finalement, le XXe siècle, c'est il n'y a pas tellement longtemps, où il y a déjà eu énormément de mutations à ce moment-là, durant le XXe siècle, c'est là que la parentalité apparaît.
Ouais. Dans quel sens ?
Le mot parentalité, où on parle vraiment de ce que c'est être parent, où il y a vraiment cette prise de conscience que finalement, ce que nous on fait en tant que parents va impacter la vie de l'enfant.
Oui, ben sûrement. C'est en effet au fil de la 20e siècle, les connaissances par rapport à la parentalité ont augmenté. Aussi, par exemple, ben là, il y a la question du terme parentalité, parenting. Le mot parenting en anglais a vu son apparition plus ou moins avant, on n'en parlait pas trop. Un enfant s'éduquait soi-même presque. Tandis que, avec l'arrivée de la psychologie du développement, par exemple, ma discipline, nos connaissances par rapport aux effets de ce qu'on fait en tant que parents ont augmenté. On s'est intéressé davantage par rapport aux contributions des parents au développement de l'enfant. Donc, on s'est rendu de plus en plus compte de l'impact qu'on a en tant que parents et de nos pratiques parentales. Et ces connaissances ont vu aussi de plus en plus d'exposés dans les médias, par exemple, dans nos savoirs plus collectifs. Ce qui est, pour être clair, ce qui est généralement une bonne chose, que nos connaissances grandissent et qu'on partage nos connaissances, mais avec un effet secondaire potentiel que, pour certains parents, ça peut créer des pressions par rapport à la manière comment il faut qu'on éduque nos enfants et si on y dévie.
Oui,
on risque de se culpabiliser, de se dire je suis un mauvais parent, etc.
C'est quelque chose d'assez récurrent aujourd'hui, cette image de il faut être un bon parent déjà, mais voire même un parent parfait. Vous parlez d'ailleurs dans certains de vos articles de l'idéal du parent parfait aujourd'hui.
Ouais, en effet. Ceci touche cette question ou ces injonctions d'être très impliqué en tant que parent. Puis la difficulté, ce qu'il y a là autour, c'est que ces injonctions sont parfois aussi contradictoires. Hein. Il faut être impliqué, mais pas trop non plus, sinon on est un parent hélicoptère. Donc,
parent hélicoptère.
Ouais, ou un parent, un hyper-parent par exemple, un parent qui est trop impliqué, qui est tout le temps là en tant qu'hélicoptère et qui va intervenir dès qu'il y a une difficulté. Un concept qui vient du contexte anglo-saxon, mais dont on parle aussi parfois par ici. Puis il faut aussi éviter ça, donc ces injonctions sont souvent contradictoires, ce qui rend la vie presque impossible pour un parent pour répondre à toutes ces injonctions.
Et d'où elles viennent ces injonctions ? Est-ce que finalement, on va dire que c'est de la société, mais plus précisément, est-ce que c'est justement par le développement de la psychologie et donc des psychopédagogues par exemple, ou des psys ou des pédiatres même, qui donnent ces injonctions-là ? D'où viennent ces différentes injonctions, qui sont différentes en plus ?
Ouais, je pense qu'il existe différentes sources. Je pense que il y a les médias, les professionnels, d'autres parents, nos propres parents. Je pense aussi, par exemple, si on parle des médias, ça a aussi pas mal évolué. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de réseaux sociaux, les nouvelles médias, entre guillemets, où on peut aussi lire beaucoup de choses, beaucoup de gens qui se considèrent comme experts, qui vont dire il faut faire ça ou ça. Et l'ensemble de toutes ces informations va créer certaines injonctions ou certaines pressions potentiellement.
Voilà, on voit par exemple le côté où on dit qu'il faut laisser l'enfant expérimenter et faire par lui-même, parfois à l'excès, et puis d'autres parents, d'autres spécialistes, on va mettre des guillemets, qui disent mais non, il faut quand même des moments de time-out, par exemple. Bon, on a arrêté la fessée, hein, mais voilà. Mais il y a un côté, en fait, c'est ça qu'on dit aussi, ce côté contradictoire, c'est que d'un côté, on dit faut laisser faire, d'autre côté, oui, mais quand même, il faut des limites. Comment on se situe alors là-dedans? Je pensais par exemple, c'est Elisabeth Filioza, je ne sais plus si c'est ce prénom-là ou c'est Isabelle Filioza, qui parlait donc pas de time-out, pas punir l'enfant, laisser faire. Et de l'autre côté, je ne sais plus son prénom, Goldman, ouais, qui elle parlait justement que le time-out était par exemple nécessaire. Et c'est vrai qu'entre les deux, où est-ce qu'on se situe, quoi?
Ouais, ouais. Puis le fil rouge à travers ces débats, ces discours, ça reste que ben, c'est le parent principalement qui est responsable. S'il y a des difficultés avec l'enfant, par exemple, ben, on va très vite regarder à qu'est-ce que le parent fait ou ne fait pas et mettre la responsabilité sur lui ou elle qui ne sait pas éduquer son enfant, qui utilise une mauvaise pratique, qui est soit trop laxiste, soit trop contrôlant. Mais généralement, on a tendance donc de mettre la responsabilité sur les épaules des parents.
C'est vraiment eux qui portent tout le poids de l'éducation de l'enfant. Ça n'a pas toujours été le cas?
Pas forcément, même si bien sûr, si on parle d'autrefois...
Avec le village, de nouveau.
on a tendance à retomber aussi dans une image un peu nostalgique où avant tout était mieux, hein, comme tu disais tout à l'heure. Je pense, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on sait par rapport à la parentalité a évolué, puis autrefois on se rendait aussi moins compte de la contribution de la parentalité au bon développement de l'enfant, de l'adolescent. Donc quelque part on sait plus à les effets potentiels, mais on oublie parfois, et quand on en parle, quand on en communique, de mettre ça aussi en perspective et de reconnaître qu'il y a aussi plein d'autres facteurs qui vont contribuer au bon développement d'un enfant, d'un adolescent. Et en reconnaissant que il y a toute une série de facteurs, de déterminants qui vont finalement expliquer comment on va se développer en tant qu'enfant, en tant qu'ado. Tandis qu'aujourd'hui, on a tendance à attribuer vraiment aussi beaucoup d'importance à la parentalité, en oubliant qu'il y a aussi des facteurs, il y a d'autres acteurs, il y a les pères par exemple, PAIR, l'école, mais aussi le quartier, aussi des facteurs plus structurels, et la pauvreté par exemple a aussi un effet important sur le développement de l'enfant, mais on parle beaucoup moins de ces facteurs plus structurels qui impactent aussi le développement de manière importante. Et les parents, c'est vrai qu'ils contribuent au développement, mais seulement jusqu'à un certain point. Et si on le formule en termes statistiques, en termes de variance expliquée, c'est assez limité. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu.
J'aime qu'il m'éveille.
Mais on met la responsabilité, on stigmatise peut-être aujourd'hui les parents.
Ouais. Et comme je disais, quand il y a quelque chose qui va pas très bien auprès de l'enfant, on a tendance à regarder surtout le rôle des parents ou l'absence des parents, en oubliant qu'il y a toute une série d'autres facteurs qui y contribuent aussi, qui peuvent aussi aider à expliquer à la fois le comportement de l'enfant, puis aussi pourquoi les parents sont soit trop impliqués, soit pas assez impliqués, etc.
Alors aussi, on a vu beaucoup, enfin il y a une loi d'ailleurs qui est passée en France, je ne sais pas en Belgique, avec l'interdiction de la fessée, en Belgique aussi, je ne sais pas.
Oui, je crois, ouais.
Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui et de plus en plus, et heureusement, je vais pas appeler ça les châtiments corporels, mais en tout cas, l'éducation se fait moins violente.
Oui. Oui, c'est tout à fait le cas et c'est tout à fait une bonne chose. Il y a plusieurs études qui montrent ça par rapport aux évolutions de la parentalité ou du parenting entre guillemets. Donc les pratiques qu'on utilise en tant que parent, il y a moins de violence vis-à-vis des enfants, moins de châtiment, moins de punitions sévères à travers le temps. Puis ça c'est une bonne évolution, hein, la recherche par rapport à ça, qui est vaste, ne mérite pas trop de nuances, c'est-à-dire que c'est mauvais. même si certains gens ont une certaine nostalgie à une autre époque où l'autorité était encore reconnue, il existait encore du respect, mais on sait que la violence... ça ne vient pas avec l'autorité.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que l'autorité doit d'office être violente?
Oui, non, pas du tout.
Oui, parce qu'on entend, mais enfin, nous, on a reçu quelques claques, c'est pas pour ça. Et c'est pour ça qu'on est peut-être mieux éduqués aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact sur l'éducation?
Tu veux dire un tel discours?
Ce discours-là, évidemment, qui est. Mais est-ce que aujourd'hui on voit donc une différence d'éducation par le fait qu'elle soit non violente? Est-ce que c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, il y a plus de délinquance ou justement moins de respect à l'autorité, par exemple?
Ouais. On a tendance à attribuer certains changements. Aux parents de nouveau. Hein. Il y a certaines évolutions par rapport à la question de la délinquance, par exemple. Je ne suis pas aussi certain si ça augmente. Hein. Les chiffres montrent plutôt l'inverse, que les jeunes générations se comportent plutôt bien. Il y a moins de comportements de risque, il y a moins de abus d'alcool, des drogues par exemple, moins de prise de risque, les premiers contacts sexuels par exemple se font aussi de plus en plus tardivement. Par contre, quant à la santé mentale par exemple, là on observe des augmentations, on en parle pas mal dans les médias, puis les chiffres le confirment aussi.
Oui, mais c'est pas dû aux parents.
Non. Plutôt l'inverse. Hein? Généralement, si on observe des évolutions en termes de parentalité, on le qualifierait plutôt comme une meilleure, entre guillemets, type de parentalité qu'on observe aujourd'hui. Donc, les parents font plutôt un bon job et heureusement, sinon peut-être que la situation serait encore pire.
Elle serait encore pire. On est sorti, en fait, du parent, quelque part, du parent tout-puissant qui a presque, et c'est plus les pères d'ailleurs, hein, qui ont presque droit de vie et de mort sur leurs enfants. Il y a vraiment une prise en considération de l'enfant en tant que... je pense que c'est le terme que vous utilisez, en tant que sujet de droit.
Ouais. En effet, c'était en 89, hein, je crois, que la loi a été ratifiée. Ou la
Convention des droits de l'enfant.
Oui, merci. Ce qui est, pour être clair aussi, une très bonne chose, ce qui est très important, que ça a été ratifié et a été reconnu. Bien sûr, ça risque aussi de colorer la parentalité où, en tant que parent, on risque de se poser plus de questions. Est-ce que je peux faire ça ou ça?
Mais heureusement, quelque part.
Ouais. Mais donc, la Convention des droits de l'enfant, c'est évidemment très important. Puis ça donne aussi un cadre qui clarifie ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et je pense que c'est important que ça existe maintenant. Après, la question qu'il faut qu'on pose aussi, c'est si certains parents ont tendance à retomber dans des pratiques plus violentes ou qui sont moins adaptées, c'est aussi la question pourquoi en tant que parent on fait ce genre de pratiques, on fait ce genre de choses et pas directement retomber dans un discours qui est culpabilisant, voire diabolisant. Si on veut aussi aider des parents, des familles, des jeunes, c'est important de travailler avec tout le système, finalement, toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans.
Mais en fait, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, en mettant quand même le point d'attention sur les parents, voire que ce soit presque une stigmatisation des parents, c'est ce qu'on appelle le déterminisme parental, en fait, c'est ce que vous appelez, je ne sais pas si c'est vous qui l'appelez comme ça ou si, c'est un terme qui existe, c'est le déterminisme parental, vous pouvez nous l'expliquer ?
Ouais. L'idée du déterminisme parental, c'est l'idée que ce qu'on fait en tant que parent a des effets irréversibles sur le développement de l'enfant et que le bon développement est principalement, voire entièrement déterminé par le comportement ou les pratiques parentales. Ce qui implique aussi que ce qu'on fait en tant que parent aurait certains effets irréversibles sur son enfant. Et ce qui implique aussi qu'on n'a presque pas le droit de faire des erreurs, tandis qu'on est des êtres humains qui font des erreurs et on apprend aussi par erreur. Donc, puis l'inverser, où on l'oppose au multidéterminisme, l'idée que le développement s'est déterminé par plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs, y compris la parentalité, mais y compris beaucoup d'autres choses, et que c'est important de prendre toutes ces couches, toutes ces nuances en compte pour comprendre le développement. Et le parent, c'est seulement une pièce du puzzle là-dedans.
Mais avec tout ce qui est développement, donc entre autres des réseaux sociaux, mais aussi de cette individualisation de la société, comme vous disiez, il y a aussi une énorme littérature en ligne et papier sur justement le développement personnel de tout un chacun. Et donc le parent se retrouve dans ce développement personnel aussi avec, ça devient presque un marché en fait.
Oui, c'est tout à fait le marché. Aussi la parentalité, il y a beaucoup de livres qu'on peut retrouver par rapport à ça, beaucoup de conseils, beaucoup de coach parental par exemple. Mais fil rouge, et ça rejoint aussi les évolutions plus sociétales dont on parlait tout à l'heure, c'est que la responsabilité du bon développement pour toi-même en tant qu'individu mis sur ta propre épaule, c'est l'idée de la méritocratie. Puis par extension, quand on parle des enfants, des jeunes, la responsabilité est mise sur les épaules des parents. Si on veut que notre enfant se développe bien, il faut s'informer, il faut acheter les livres, le bon matériel, avec des petits enfants, les bons jouets pour qu'il est stimulé cognitivement dès le début. Et si on ne le fait pas, en tant que parent, t'as quand même un peu échoué.
Mais c'est ça qui est difficile alors pour les parents aujourd'hui, c'est de se dire, tout est de ma responsabilité, donc plus vite on va lui apprendre à lire, à écrire, à compter, à utiliser correctement, évidemment, correctement les écrans, mieux ce sera en fait. Plus on a un génie à la maison, mieux c'est. Et s'il y a un problème au niveau de la scolarité, par exemple, pour une raison X ou Y, là c'est les parents qui... c'est eux vivent ça comme un échec finalement.
Ouais. Tout à fait. Donc quelque part, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est quelque part normaliser ces pratiques parentales de surimplication, par exemple, en voulant reconnaître que c'est aussi une réaction normale, entre guillemets, vis-à-vis d'une société ou une situation qui est en train d'évoluer, surtout aussi parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui devient plus incertain, aussi un marché de travail qui est plus incertain avec, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle. Ça amène à des questions, est-ce que mon enfant va encore avoir un bon travail, va encore pouvoir survivre dans un monde qui devient plus compétitif, plus incertain, ou seulement ceux qui sont les mieux équipés peuvent survivre. Donc en tant que parent, c'est logique qu'on investisse plus de ressources dans le développement et qu'on essaie de stimuler du coup aussi l'enfant optimalement pour qu'il ait... pour qu'il ait du succès à l'école, peut accéder à l'université, obtenir le bon diplôme pour ensuite survivre dans un monde
incertain.
Ouais, absolument. Et imprévisible.
Avec l'actualité aujourd'hui, actuelle, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Mais finalement, tout le monde, tous les parents ne sont pas égaux face à ces possibilités. Enfin, je veux dire, on a quand même l'impression que c'est plutôt classe moyenne supérieure et qu'en fait, il y a aussi une question de niveau socio-économique qui va faire, ou socio-culturel aussi, qui va faire qu'on va accéder, on va permettre à notre enfant, enfin, essayer de permettre à notre enfant d'y accéder. C'est pas à la portée de tout le monde non plus, que ce soit financièrement ou culturellement.
Ouais, sûrement à la dimension socio-économique, socio-culturelle, la question de la classe sociale, c'est important à prendre en compte, même si là autour, il existe aussi parfois des stéréotypes ou des idées. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de la parentalité hélicoptère ou la hyperparentalité, on a parfois l'idée que c'est surtout présent dans la classe moyenne, tandis que dans nos données, on observe plutôt l'inverse, que ce genre de parentalité plus surprotecteur, du coup, est plus présente dans des milieux qui sont plus précarisés, pour des raisons aussi compréhensibles. Ils vivent dans d'autres situations de vie, dans d'autres types de quartiers, par exemple. Ils sont parfois aussi moins informés, tandis que la classe moyenne est plus au courant de l'importance de soutenir l'autonomie de l'enfant, par exemple. Ils peuvent aussi plus permettre que son enfant essaye quelque chose et échoue après. Tandis que si on vit dans une situation plus précaire, il faut qu'on réussisse en tant que ah oui, il faut que notre enfant réussisse, parce que si on perd 2-3 ans en étudiant quelque chose qui ne marche finalement pas, ça peut amener à des problèmes plus importants financièrement, par exemple.
Et donc, vous parlez donc d'hyperparentalité, autrement dit, une surprotection parentale, c'est vraiment ce qu'on parlait d'arriver à ce que l'enfant ait une certaine autonomie. C'est un peu le contraire, en fait. On va empêcher, quelque part, l'enfant d'avoir une certaine autonomie pour le protéger, finalement. Par exemple, c'est le conduire à l'école jusqu'à 18 ans. Allez, on exagère un peu. C'est, par exemple, le conduire à l'école, c'est l'empêcher de sortir, c'est l'empêcher de faire ses propres expériences à l'extérieur. Est-ce que c'est ça, cette hyperparentalité ou cette surprotection?
Ouais, plus ou moins. Donc, la manière comment on le définit, finalement, c'est une protection qui est excessive, donc une protection qui est trop, donc qui n'est pas adaptée au stade développement de l'enfant, donc qui n'est pas adaptée à l'âge finalement de l'enfant. Donc pour donner un exemple bête, si on ne laisse pas sortir son enfant de 5 ans, sortir samedi après-midi tout seul dans la rue, ça c'est adapté, donc c'est pas une surprotection. Si l'enfant a 17 ans par exemple, c'est moins adapté. Donc faut considérer le niveau du développement de l'enfant, puis aussi bien sûr le contexte de vie, si on vit dans un tel ou tel quartier à côté d'une rue qui est souvent fréquentée, ou si on vit à la campagne, c'est aussi une autre situation, etc.
Cette hyperprotection, je ne sais pas si vous avez fait le corollaire avec, par exemple, l'affaire Dutroux en 96, qui a changé finalement aussi cette vision de la liberté, entre guillemets, la liberté de l'enfant.
Oui, en effet, dans notre contexte belge spécifique, ça a sans doute joué un rôle, même si c'est difficile de vraiment quantifier l'impact de l'affaire Dutroux, mais ça a remis en question la confiance qu'on a aussi un peu dans la société ou d'autres gens. Puis ici en Belgique, on a l'affaire Dutroux, mais dans d'autres pays, on avait parfois aussi des situations similaires. Hein. Aux États-Unis, on parlait parfois du stranger danger qui s'est développé suite à des incidences qui sont très grave, mais qui reste quand même rare, mais ça a impacté notre vision de l'autre personne et la confiance qu'on a ou qu'on n'a pas dans le voisin, entre guillemets. Donc ça touche aussi un peu cette question du capital social, la question à quel point on a on fait confiance en autrui.
Ce qu'on fait de moins en moins.
ou c'est ce qu'on dit en tout cas, je ne connais pas les données exactes, mais c'est ce qu'on dit. Puis ce qu'on sait, c'est si on a moins de confiance en d'autres personnes, si on considère le monde comme un endroit dangereux, risqué, là on a clairement plus tendance à devenir plus surprotecteur.
Est-ce que cette surprotection parentale a déjà été étudiée par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les enfants, sur le développement des enfants?
Oui, ça a été pas mal étudié, puis nous en avons aussi fait des recherches par rapport à ça, et puis on sait que c'est pas terrible pour le bon développement de l'enfant, et que ça peut amener à certaines, ou c'est un facteur de risque pour certaines difficultés développementales, à la fois dites intériorisées, donc comme des symptômes d'anxiété, une estime de soi plus faible, avoir des doutes sur soi-même.
Il peut y avoir de la peur de l'extérieur du coup aussi?
Oui, par exemple. Puis la raison pourquoi tel est le cas, c'est parce qu'on apprend moins à gérer certains types d'émotions plus négatives, l'anxiété par exemple. On apprend aussi moins à surmonter des difficultés parce que c'est le parent qui gère toujours. Mais là, de nouveau, la nuance importante, c'est un facteur de risque parmi plein d'autres.
Oui, bien sûr. Mais voilà, donc cette surprotection, elle est compréhensible peut-être dans le monde dans lequel on vit, mais en même temps, il faut laisser l'enfant faire ses propres expériences.
Ouais.
C'est flippant.
Ouais. Et ça, c'est la difficulté en tant que parent. Moi, je suis récemment aussi devenu parent. Ma fille a maintenant 1 an et demi, puis là.
Ça va pour l'instant pour aller à l'école toute seule. C'est...
Mais c'est là, moi aussi, je suis confronté avec la double injonction ou l'envie de vouloir la meilleure pour son enfant et d'être prudent ou de vouloir la protéger, mais de savoir aussi que c'est important de la stimuler, de prendre des risques, de la laisser faire des choses tout seul, et ce qui vient avec les risques de se faire mal, mais ça fait partie de la vie.
C'est peut-être plus compliqué pour vous alors, du coup, de devenir parent avec les études et les recherches que vous faites. Il y a encore plus, quelque part, il y a peut-être même une injonction supplémentaire.
Ouais. Je suis censé être l'expert, donc... En tout cas, il y a une certaine évolution aussi dans mes travaux ou des au début, on étudiait surtout les conséquences des pratiques parentales, tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt reconnaître les vécus des parents. Ouais. Donc,
Mais c'est important aussi parce que donc on parle de plus en plus du vécu de l'enfant. Donc c'est ça qui devient assez primordial aussi. On fait attention à ce que l'enfant dit, à ce que l'enfant ressent et aux besoins de l'enfant. Mais finalement, dans ce que vous faites la même chose avec les parents.
Oui, en sachant aussi que si on ne prend pas soin de soi-même en tant que parents, on a aussi moins d'énergie pour être entre guillemets un bon parent. Donc si on veut le meilleur pour son enfant, il faut aussi vouloir le meilleur pour soi-même. Si en tant que parent on est très stressé, si on se met beaucoup de pression par exemple, on aura moins d'énergie pour être aussi bien adapté aux besoins de l'enfant. Donc quelque part c'est un double gain si on prend soin de soi-même.
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, finalement, c'est un peu ça. Ouais. C'est un conseil que vous pourriez vous donner aux parents aujourd'hui. Il y en a d'autres. En même temps, vous n'êtes pas coach en parentalité, on est bien d'accord. Mais théoriquement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la parentalité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux finalement?
C'est la grande question de la vie. Si jamais il y avait une réponse simple à cette question, ce serait génial. Mais je pense, dans un premier temps, en tant que parent, avoir un peu confiance dans ses propres compétences et essayer, puis accepter qu'on échoue parfois. Donc, ne pas trop se mettre la pression, ne pas trop se laisser désharceler par tous les conseils qu'on peut recevoir. Savoir que si on fait une erreur, c'est pas grave, les enfants sont résilients, donc ça dans un premier temps, puis si on a des doutes, parler avec d'autres gens, échanger, obtenir des conseils des personnes pour lesquelles on a une bonne estime quelque part,
qu'on considère quoi.
Ouais. Puis si on est vraiment, si on a vraiment des doutes ou des difficultés, se tourner plutôt vers des professionnels et pas forcément vers l'internet, parce que sur l'internet il y a beaucoup d'informations et pas toujours aussi fiables.
Et ben voilà, Stijn van Petegem, merci beaucoup. Et je voulais encore terminer quand même, j'ai déjà merci beaucoup, mais par votre site Safe Story. C'est là où on retrouve déjà plein d'infos par rapport à tout ce que vous avez pu publier. Enfin, vous, il n'y a pas que vous. Hein. Vous pouvez un peu nous expliquer Safe Story?
Safe Story, c'est un projet qui a été financé ou qui est encore financé par le Conseil de recherche européen, le ERC. Donc, c'était un grand projet de recherche sur lequel beaucoup de gens ont travaillé, des doctorants, des postdocs, aussi beaucoup de stagiaires de recherche ici de l'ULB qui ont contribué à ce projet. Puis sur notre site web, on partage les résultats, ce qui se passe dans le projet, pour donner quelques retours aussi à la société.
Voilà, et on mettra donc le lien sur le post qui sera publié sur le site de Radio Campus, radiocampus.be. Lien également où vous pourrez avoir le podcast de cette émission. Stijn van Petegem, merci beaucoup et, de votre venue et pour toutes ces infos sur la parentalité. Et peut-être une prochaine fois.
Oui, merci beaucoup, c'était un grand plaisir.
Merci beaucoup, au revoir.
Hémoglobine.